Donc j'ai dit c'est le dernier cours de l'épître. Nous verrons aujourd'hui 3 Jean. Donc nous sommes passés par 1 Jean, par 2 Jean et aujourd'hui donc nous verrons 3 Jean. Et le titre ce matin c'est Marcher dans la vérité. Pour résumer, je dirais en gros, pratiquement on a plus parlé de l'amour de 1 Jean jusqu'à 3 Jean et dans 3 Jean on veut voir la pratique de l'amour mais par par l'hospitalité, par le fait de recevoir les autres, prendre soin des autres. Discuter de cela. Du missionnaire Brian Cook. Dimanche dernier, ce que nous avions vu, nous avions parlé de connaître la vérité. La vérité était définie comme l'ensemble de la parole du Seigneur. C'était donc les commandements de Dieu. Il fallait veiller sur cette vérité-là, sur qui est la parole du Seigneur. La vérité doit être défendue contre les fausses doctrines. Nous avons vu que dans le contexte, il y avait donc de faux enseignants, de faux docteurs, et qui remettaient en cause même des fois l'humanité, soit l'humanité de Jésus, ou soit sa divinité. Donc, fallait faire attention à cela. Et puis, l'un des éléments qu'on avait fait ressortir, c'était dire que c'était subtil aussi. OK? Parce que c'était parmi les frères que la fausse doctrine pouvait se véhiculer. Donc, fallait veiller là-dessus. Et puis, fallait la défendre. Et nous avions noté aussi que la vérité et l'amour sont indissociables. On ne peut pas parler de l'amour sans s'appuyer sur la parole de Dieu, sans s'appuyer sur les paroles, sur les recommandations que le Seigneur donne. Donc, les deux vont de pair. Et nous avions dit qu'il fallait marcher dans la vérité, que marcher dans la vérité, du moins, s'implique l'obéissance à Dieu. Donc, marcher dans la vérité, c'est marcher selon la parole du Seigneur. Et ce matin, nous allons voir ensemble, donc, marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité qui implique, donc, l'obéissance à la parole de Dieu, comme on l'a vu la semaine passée. Mais le contexte ici, c'est l'une des églises sous la responsabilité de l'apôtre Jean est dominée par l'un des responsables, qui est Diophrène, qui exerce une mauvaise influence sur l'église. Ça sera dans 3 Jean. Qui exerce une mauvaise influence sur l'église. Donc, il refuse de recevoir les prédicateurs et les frères itinérants. Donc, on pourrait dire tous ceux qui passent par l'église locale, qui viennent au nom du Seigneur, qui viennent proclamer la bonne nouvelle. On voit que Diotrephe s'oppose à cela et refuse de les accueillir ou de les recevoir. Donc, il empêche l'église de le faire. Non seulement lui, il ne le fait pas, mais il empêche également l'église de le faire, et il chasse même ceux qui veulent le faire, ceux qui veulent manifester cette hospitalité-là ou qui veulent recevoir les prédicateurs, les saints, les frères et sœurs qui passent, qui sont de passage. Non seulement lui ne veut pas le faire, mais il va chasser ceux qui veulent le faire au niveau de l'église. Donc, ce manque d'hospitalité donc, s'oppose à la pratique de l'amour que nous avions vu depuis, je dirais, 1 Jean, par rapport aux recommandations que le Seigneur faisait lui-même. Et deuxièmement, lorsqu'on voit l'attitude de Diotrephe, au fait, Diotrephe, c'est une autorité dans l'Église, hein, c'est un responsable de l'Église. On voit qu'il domine effectivement sur le peuple au lieu de le servir. Voilà, donc c'est une interpellation aussi pour chaque responsable ou toute personne qui occupe une responsabilité quelque part dans le service de l'Église. Cette troisième épître de l'apôtre Jean s'adresse personnellement à son ami Gaius, le bien-aimé qu'il aime dans la vérité. Donc, l'apôtre Jean, qu'on appelle l'ancien, donc, va adresser personnellement à Gaius, un membre de l'Église dans laquelle fréquente Diotrephe, donc va lui adresser une note particulière, une lettre particulière. Donc, Gaius était probablement dans la même Église que Diotrephe, et Gaius avait une position sociale aisée qui lui permettait de soutenir les frères et pourvoir à leurs besoins. Gaius était non seulement hospitalier, mais il exerçait aussi la libéralité. Donc, on va voir que quand on parle d'hospitalité, ça va venir aussi avec la libéralité, ça va venir aussi avec la bonté, avec d'autres caractères qui accompagnent cela. Donc, 3 Jean 1 à 14, je fais la lecture. Donc, c'est notre test de base de ce matin. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis. Chacun en particulier. Amen. Donc, c'est le message, effectivement, que Jean écrit à son ami Gaius, à son bien-aimé Gaius. Donc, on va parcourir ensemble cette lettre-là qui, effectivement, s'adresse à nous aujourd'hui en tant qu'individuellement et par la suite, je veux dire, dans notre relation les uns les autres en tant qu'Église. Marcher dans la vérité, donc on va parcourir un peu ensemble, c'est ce que j'offre ici, dans ce qu'on va faire, c'est-à-dire les vœux de l'ancien pour Gaius, le témoignage de Gaius, le témoignage de Diotrephe et puis le témoignage de Démétrius. Conclusion 13 à 14. Donc les versets 1 à 2, ici on nous dit l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc ici, dans le verset, ici, j'ai mis le comme pour montrer la comparaison. C'est la comparaison entre la prospérité que Jean espère ou souhaite à son bien-aimé Gaius. Donc l'ancien commence à l'être en faisant des vœux à Gaius suite au témoignage qu'il a reçu au sujet de Gaius. Donc, vœux de prospérité à tous égards. Donc, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, dans tous égards, j'ai mis à tous les niveaux. Donc, dans tous les niveaux, social, matériel, familial, relationnel et financier. Et point, point, point pour dire, il voudrait effectivement que Gaius soit épanoui, OK? Puisse être épanoui dans tous les domaines de sa vie. Et deuxièmement, il lui souhaite une bonne santé aussi également. Donc, on voit que le souhait de prospérité à tous égards, à tous les niveaux de nos vies, c'est légitime, c'est normal. La bonne santé aussi, le désir de rechercher la bonne santé, c'est normal. Et en troisième point, j'ai mis le vœu de prospérité spirituelle. Donc, revenons donc à notre message, à notre test de base. C'est-à-dire, on voit que dans les deux premiers, il va parler de la prospérité à tous égards, il va parler de la bonne santé, et au troisième point particulièrement, il va dire « comme l'état de ton âme », que j'ai appelé la prospérité spirituelle. Donc ici, en le faisant l'apôtre, il est en train de montrer effectivement que c'est légitime tout cela, mais il le souhaite pour Gaius, pourquoi? Il le souhaite parce qu'il a constaté effectivement que la prospérité de l'âme de Gaius. il a constaté que l'âme de Gaïs prospère. Souvent, on va arriver en fin d'année, puis on va souhaiter des vœux à nos amis. Ah, on souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Oh, on sent que le frère, même son âme, est en train de se perdre. Donc, ça dit, s'il veut prospérer comme l'état de son âme, au fait, tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est dit que c'est la déchéance sociale, la déchéance, je dirais, matérielle qu'on souhaite pour lui, si son âme n'est pas en train de prospérer. Vous comprenez un peu? Voilà, donc j'ai fait ce point pour faire le lien, pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'ici, l'apôtre, quand il parle de la prospérité et qu'il le souhaite à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, Gaïus, c'est parce qu'il a constaté que l'âme de Gaïus prospérait. La vie spirituelle de Gaïus était en pleine santé. Pour revenir à la question de notre frère, comme j'ai répondu, en tout cas, selon moi, les lectures que j'ai pu faire, je ne pense pas qu'il s'agit du même Gaïus. Et puis, il faut noter que Gaïus était un nom commun aussi dans la cité où ils étaient. Okay? Ici, le souhait qu'il émet, c'est il est tellement content qu'il prie. Il dit, mais autant ton âme prospère là, je souhaite que dans chaque domaine de ta vie, tu puisses aussi être épanoui, tu puisses être prospéré. Donc, c'est sa prière pour son ami Gaïus. Donc, les vœux de l'apôtre pour Gaïus sont rattachés à la prospérité de son âme. Donc, il est content de l'état spirituel de Gaïus et de son témoignage. Nos prières sont fondées sur Dieu, mais quand on prie, c'est toujours selon la volonté de Dieu. Donc, même si on réclame, c'est selon la volonté de Dieu. OK? Et puis, comme Jean-Luc l'a dit tantôt, c'est un souhait, c'est une prière qu'il émet, mais c'est Dieu qui réalise, c'est Dieu qui exauce. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est bon? Et le témoignage de Gaïus. Les éléments du témoignage de Gaïus, quand on lit du verset 3 au verset 8, les éléments de son témoignage dont va parler l'apôtre Jean, on dit « la vérité est en lui ». On dit que la vérité est en lui. Sa manière de marcher dans la vérité, son hospitalité pour les frères, son hospitalité pour les frères étrangers. Il dit « j'ai fort été réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage de manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qui sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Donc ici, les éléments qui réjouissent le cœur de Jean, il les fait ressortir, il les cite, c'est que Gaïus est un homme qui marche dans la vérité et la vérité est en lui. La vérité est en lui, marcher dans la vérité, c'est-à-dire sa vie est conforme à la parole de Dieu, sa vie est conforme à ce qu'il déclare, à ce qu'il annonce. Son hospitalité pour les frères, c'est qu'il accueille les frères et des frères qui sont de passage. Il faut noter aussi que Gaïus, comme on l'a noté plus haut, avait une situation certainement sociale plus aisée. Il était plus facile, plus à même de pourvoir aux besoins des frères qui passaient. Donc, il mettait effectivement à disposition de ces frères-là, en tout cas les moyens que Dieu lui donnait. Et cela touche le cœur de Jean. Parce que c'est un témoignage qu'il entend. Certainement, c'est son bien-aimé, c'est son ami, il le connaît. Mais le témoignage vient de ceux Gaïus accueille. D'abord, j'ai fait exprès pour dissocier frère et frère étranger, parce que le test le dissocie aussi. Hospitalité pour les frères. Donc ici, pour les frères, certainement, c'est les frères que Gaïus connaît. Ceux qu'il côtoie ou ceux qu'il a déjà vus. Mais on nous dit aussi pour les frères étrangers. C'est-à-dire ceux qu'il ne connaît pas, donc qui rentrent dans l'un des caractères de Dieu, qui ne fait pas acception de personne. Donc Gaïus, il ne va pas tenir compte que c'est une personne que je connais, c'est une personne que je ne connais pas, mais il va agir pour honorer le Seigneur, pour servir Dieu. Et l'amour de Gaïus pour les frères était montré par son hospitalité, sans distinction pour eux. Il agissait envers ceux qu'il connaissait et ceux qu'il ne connaissait pas. Qu'est-ce que marcher dans la vérité? Pour nous, qu'est-ce que donc serait marcher dans la vérité? marcher dans la vérité comme le frère a dit, c'est aimer les frères. Amen. Donc, 2 Jean 4 à 6, comme on l'a vu dimanche dernier, je vais le lire. 4 à 6, il dit, j'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Ça, c'est à peu près la similitude aussi avec ce qu'il vient de dire dans Gaius. Et il dit, selon le commandement que nous avons reçu du Père, et maintenant ce que je demande de Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon les commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. C'est que nous nous aimons les uns les autres. Donc, comme le frère l'a dit, marcher dans la vérité, c'est ça. Donc, c'est obéir à la parole de Dieu, c'est avoir une vie conforme à la parole de Dieu, et puis c'est pratiquer l'amour. Donc, l'ancien est content parce que ses enfants, dans la foi, marchent dans la vérité. Donc, ils ont une conduite irréprochable, ils pratiquent l'hospitalité. Quand je suis arrivé là, j'ai écrit « conduite irréprochable » et puis j'ai dit « mais est-ce que c'est le bon mot ?» Je voulais le retirer et puis changer. Mais après, j'étais convaincu de garder « conduite irréprochable » parce que dans l'appel au ministère de diacre ou d'ancien, on nous dit que l'ancien ou le diacre doit avoir une conduite irréprochable. Alors, la conduite de Gaius était une conduite donc irréprochable. Dans l'amour, dans ses rapports avec les autres. Donc, il pratique l'hospitalité. Quelqu'un pourrait lire Hébreux 13, versets 1 à 2. Donc, il dit, persévérez dans l'amour fraternel et puis n'oubliez pas l'hospitalité. Donc, on va voir que l'hospitalité va être fondée sur l'amour. Comme on l'a dit tout à l'heure, marcher dans la vérité, c'est nous aimer les uns les autres. Donc, l'hospitalité est fondée sur l'amour. Donc, marcher, qu'est-ce que l'hospitalité? Donc, la question est lancée, selon nous, qu'est-ce que l'hospitalité? Et comment devons-nous l'exercer? Vers qui l'hospitalité doit être tournée? Et quelle est la limite, donc, de l'hospitalité? Donc, qu'est-ce que l'hospitalité? Donc, la disposition à accueillir, à recevoir, donc, des frères. Si, par exemple, quelqu'un reçoit une autre personne, et puis, la personne cherche un endroit où dormir, et puis... Moi, je peux juste lui offrir de l'eau pour désaltérer la personne et puis l'aider à trouver où est-ce que la personne peut dormir. Est-ce que c'est aussi de l'hospitalité? C'est de l'hospitalité. Donc, je veux dire que l'hospitalité va être dépendante des possibilités qu'on a aussi. C'est important. OK? Parce qu'on ne va pas se ruiner aussi en voulant être hospitalier. Et puis, vous comprenez? Donc, l'hospitalité va, comme on dit, le fondamental de l'hospitalité, c'est l'amour. Va être fondé sur l'amour et puis ça va se manifester selon les disponibilités ou les moyens que le Seigneur mettra à notre disposition. Amen. Des fois, on va discuter avec des frères et puis on va se rendre compte qu'il y a des frères qui vont dire, ah, mais tiens, peut-être je vais digresser un peu, moi, je ne peux pas, par exemple, donner du travail à un frère de l'Église parce que toutes les fois qu'on a confié une tâche à un frère qui exerçait, qui a un métier quelconque, je lui ai donné une responsabilité, il a bâclé, il n'a pas fait consciencieusement, il n'a pas bien fait. Donc, je préfère, moi, confier mes tâches à un non-chrétien qui va les faire correctement. Donc, vous voyez, je fais exprès pour le remettre, pour dire que des fois, il y a certaines attitudes qui vont faire que même la motivation de l'hospitalité va être refroidie. Vous comprenez? Bon, peut-être qu'on va y arriver là, c'est de veiller à ce que derrière, dans l'hospitalité, il n'y ait pas de l'abus, il n'y ait pas de l'exploitation de celui qui ouvre sa maison, de celui qui veut aider. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, comment devons-nous l'exercer? On a dit fondé sur l'amour, et puis vers qui l'hospitalité doit être? Donc, vers tous, hein? L'hospitalité doit être tournée vers tout le monde, c'est-à-dire le chrétien, le frère, le non-chrétien, l'incroyance, on doit être hospitalier avec tout le monde. Mais le point sur lequel je voudrais qu'on puisse porter une attention, c'est quelle est la limite de l'hospitalité? Je le lis, donc 2 Jean 7 à 11. 2 Jean 7 à 11 dit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Donc ici, on voit, donc pour celui qui vient avec une fausse doctrine, un faux enseignement, la Bible est claire, on ne va pas le recevoir. Et puis, comme le frère l'a dit, en le recevant, peut-être il vient détourner ceux de notre maison, ou bien même nous-mêmes si on y prend garde, parce que c'est un mauvais enseignement. Okay? Je n'ai pas eu le temps de le chercher, mais je sais que dans Philippiens, les faux docteurs, l'apôtre Paul les appelle les chiens. Il va même plus loin, il est encore plus dur. Des loups, des chiens, on ne va pas les recevoir. Vous comprenez? Ce que je dirais, comme on l'a dit tantôt, c'est d'aller selon nos possibilités, selon nos moyens. Mais il ne faudrait pas que derrière ça aussi, on se cache pour ne pas pratiquer l'hospitalité. Okay? Donc, c'est-à-dire, c'est la disposition de notre cœur, c'est-à-dire à accueillir, à recevoir. Si on est capable d'aider, de soutenir la personne, selon ce qu'on a, selon la disposition de notre cœur, mais dans l'amour, on le fait. Pour moi, personnellement, il n'y a pas de mal, c'est-à-dire à recevoir un frère. Si tu sais au fond de toi que ta limite de soutien serait déterminée, mais c'est la vérité, c'est de lui dire effectivement que la limite serait déterminée. Faut pas prendre l'hospitalité comme une règle, comme une loi, ne pas être légaliste là-dessus. Ok? Ben, ce que Dieu demande, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Les uns, pas juste, ou les uns. Voilà, donc comme on l'a dit d'entrée, c'est-à-dire ne pas se laisser abuser. Ça, c'est de un, et puis ne pas aussi abuser. OK? Donc, on doit avoir cette bonne disposition à pouvoir être ouvert, à pouvoir partager, mais selon la limite des possibilités qu'on a, selon nos capacités. Ou je dirais selon la portion de libéralité ou d'hospitalité que le Seigneur met dans le cœur de chacun et selon ce qu'on possède. C'est bon, on va progresser. Le cours aujourd'hui, il est dense, mais on n'a pas assez de temps pour cela. Des versets 6 à 8, l'appel à l'hospitalité, certainement qu'on en a discuté. L'ancien encourage donc le bien-aimé Gaius à poursuivre l'exercice de l'hospitalité. Déjà, Gaius le fait, mais il encourage encore à poursuivre lorsqu'on lit les versets 6 à 8. Il nous dit, « Lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Donc l'hospitalité est un principe chrétien. Ok? Et il insiste sur l'hospitalité envers les prédicateurs itinérants, donc envers les missionnaires, envers tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je dis la vraie bonne nouvelle, ok? Pas les faux enseignants, pas les faux docteurs. C'est bon? Donc, c'est à l'Église de soutenir ses serviteurs qui partent et non les païens à qui l'Évangile est annoncé gratuitement. Parce que la nouvelle tendance, c'est qu'on va annoncer l'Évangile à un non-chrétien et quand on finit d'annoncer l'Évangile au non-chrétien, on demande que ce soit lui qui nous prenne en charge. Ou bien on va tenter de lui faire un lavage de cerveau parce que Dieu est dans sa maison. Comprenez cela? Or, ce n'est pas à eux de le faire. Nous, on doit pouvoir donner gratuitement. Mais c'est à l'Église, c'est aux frères de pouvoir donc soutenir effectivement les frères, soutenir ceux qui annoncent l'Évangile. Nous devenons donc ouvriers avec eux pour la vérité. Donc, pendant qu'on soutient le frère qui est en mission quelque part, pendant qu'on participe à son épanouissement, que ce soit dans l'accueil qu'on fait, que ce soit dans les finances qu'on apporte, mais nous sommes en train d'être ouvriers avec lui dans l'œuvre. Voilà pourquoi nous aimons dire que, c'est-à-dire quand quelqu'un est en mission, que l'Église est ici, l'Église aussi est en mission avec la personne, pas la prière qu'elle apporte, par le soutien qu'elle apporte. L'Église est en mission. Seulement que l'autre, il a ses pieds parce que ses pieds sont beaux. Donc, il a ses pieds pour être dans la ville ou dans la région où il est. Mais l'Église ici est le soutien de cette personne-là. Donc, imaginez, quelqu'un à qui tu vas annoncer l'évangile, et puis quand tu finis d'annoncer l'évangile, tu es en train de lui demander de te soutenir, de lui demander de l'aide, mais il ne te respecte pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, on doit pouvoir comprendre qu'en tant qu'Église, c'est notre responsabilité de pouvoir soutenir effectivement les frères et les sœurs qui partent, qui sont en mission, ou les frères étrangers qui sont de passage. C'est bon? Ouais, donc, rémunérer le travailleur à temps plein dans l'Église, c'est-à-dire, on nous dit l'ouvrier mérite son salaire. Hein. Donc, pour le travailleur à temps plein, celui qui a tout abandonné pour être à la charge de l'Église, c'est la responsabilité de l'Église de pouvoir le soutenir, de pouvoir l'accompagner dans ce ministère-là. C'est bon? Donc, le témoignage, on va voir le témoignage de Diotrephe du verset 9 au verset 11. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte, nous, des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Donc ici, on voit qu'il, après avoir félicité, encouragé Gaius, après avoir fait ressortir effectivement les éléments de son bon témoignage, il va deuxièmement parler de Diotrephe aussi, qui est, comme on l'a dit tantôt, fait partie des responsables de l'Église. C'est un responsable, je dirais, autoritaire, un responsable dominant. Donc, mais il gère l'Église, comme il entend, il gère l'Église. On dit qu'il aime à être le premier dans l'Église. Ça, c'est l'une des particularités de Diotrephe. Donc, comme responsable d'Église. On dit, ne reçoit pas les frères, tient de méchants propos contre les apôtres, empêche ceux qui voudraient pratiquer l'hospitalité, chasse de l'Église ceux qui voudraient pratiquer l'hospitalité. Donc, quand on regarde les actions de Diotrephe, on dit son contraire au service dans l'Église, il dominait sur le peuple. On pourrait lire 1 Pierre 5, 1 à 3, par exemple. 1 Pierre 5, 1 à 3 dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Donc, on se rend compte que l'action de Diotrephe s'oppose carrément à la parole de Dieu. Au lieu de servir, non seulement il va chercher à se faire servir, au lieu de paître, je dirais dans la douceur, il va dominer. Au lieu d'accueillir ceux qui viennent, d'accueillir les frères qui passent, mais il va empêcher effectivement que cela, les autres, il va pas le faire, il va empêcher aussi que les autres le fassent. Mais ce qui est intéressant dans le passage, au verset 11, il dit « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien, celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Donc l'apôtre est en train de donner une exhortation ici à Gaius qui fait le bien, opposé à Diotrephe qui fait le mal. Diotrephe était responsable d'Église. Hein? Il faisait partie des responsables de l'Église. Mais on nous dit celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. La question qui me venait ou qui me vient, est-ce que Diotrephe avait vu Dieu ou il n'avait pas vu Dieu? Au fait, c'est pour nous dire effectivement que nul n'est à l'abri de l'attitude de Diotrephe. En tant que responsable, on n'est pas à l'abri de l'attitude de Diotrephe. On aime se mettre au premier rang dans l'Église. Et on ne reçoit pas les frères. On tient des propos, de méchants propos contre les apôtres. On empêche ceux qui voudraient pratiquer l'hospitalité de le faire. Et puis ceux qui tentent de le faire, on les chasse de l'Église. C'est-à-dire, on n'est pas loin de l'attitude de Diotrephe. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas à risque de s'éloigner de cela. Mais ici, en faisant l'exhortation, il dit « n'imitez pas le mal ». Donc, l'idée de l'apôtre Jean ici, en écrivant à Gaius, c'est qu'il puisse continuer dans la bonne attitude qu'il avait, dans l'hospitalité qu'il avait. Je voudrais ajouter là-dessus, géré par un collège qui craint Dieu. Un collège qui s'appuie sur l'Esprit de Dieu, qui fait confiance à l'Esprit de Dieu pour faire avancer les choses. Amen. Donc, vous voyez, donc, c'est très important, effectivement, qu'on s'appuie sur l'Esprit de Dieu, qu'on ait une communion nous avions dit dans les premiers passages, une communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. L'attitude de l'apôtre Jean ici, il dit, c'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. C'est-à-dire, il va non seulement rappeler les actes, mais il va revenir là-dessus. Donc là, il vient pour mettre de l'ordre. Il va venir pour mettre de l'ordre dans l'Église. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Amen. Donc, nous appuyer sur l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Usez de prévenance les uns envers les autres. Le verset 11, l'ancien invite Gaius à ne pas imiter le mal, mais le bien. Le mal peut être contagieux. La mauvaise attitude, pas de Gaius, mais plutôt de Diotrephe, ok? La mauvaise attitude de Diotrephe peut influencer les autres. Les œuvres de Diotrephe montrent qu'il n'a point vu Dieu, bien qu'il soit en position d'autorité dans l'Église. C'est ce qu'on nous dit. Okay? Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Donc, c'est-à-dire, Diotrephe, l'apôtre doit le rencontrer, parler avec lui pour voir s'il a vraiment vu Dieu. C'est-à-dire, ici, ça nous envoie peut-être un peu vers les histoires de sous-discipline et tout ça, là, si on veut prolonger, hein, mais là n'est pas le sujet. Le verset 12, Démétrius était un modèle dans sa marche, dans la vérité. Certainement porteur de la lettre, avait été recommandé par Jean auprès de Gaius. Donc, au verset 12, on nous parle d'un autre personnage. Il nous dit, « Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. » Donc, l'apôtre fait rentrer un troisième personnage qui est Démétrius, qui a un bon témoignage. On dit, « Ceux qui le connaissent lui rendent un bon témoignage. Sa vie était conforme à la parole de Dieu. Et puis, l'ancien atteste le bon témoignage de Démétrius. » L'ancien termine sa lettre en évoquant qu'il espère voir son ami Gaius et parler avec lui de vive voix avant de lui souhaiter la paix et le saluer. Donc, on a vu en début, effectivement, les prières, les souhaits de l'apôtre à l'endroit de son ami Gaius. Donc, c'était des vœux de santé, vœux de prospérité à tous égards, mais comparé à son vœu comparé effectivement à sa vie spirituelle qui était prospère. Donc, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Vous comprenez? Donc, il souhaite qu'il soit en bonne santé, il souhaite qu'il prospère à tous égards, mais tout cela comme l'état de son âme. Donc, comme on l'a dit d'entrée de jeu, il est important que nous puissions prier pour l'état de notre âme, pour notre vie spirituelle. Donc, quand la vie spirituelle de la personne est bonne, on peut dire, on souhaite que tu prospères comme ta vie spirituelle prospère. Mais si elle est mauvaise, qu'on fait cette comparaison, c'est comme si on entend maudit la personne. Hein? C'est-à-dire, on ne l'encourage pas. Conclusion, donc l'hospitalité est un principe chrétien. Et l'hospitalité concerne tous les chrétiens. L'hospitalité est la preuve que nous avons vu Dieu et pratiquer l'hospitalité, c'est marcher dans la vérité. Amen.